dim, dim, tatak, dim, dim, tatak, dim, tarik, 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 dim, kita tarik, tarang, dim, tidak, dim, tentak, dim, tidak, dim, tetak, dim, tidak, dim, tentak, dim, tetak, tetak, dim, tetak, dim, tetak.
Les divagations végétales, l'émission potagère de Radio Bricole. Bravo râteau, à vos serfouettes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle divagation végétale que nous allons consacrer aujourd'hui aux plantes envahissantes, qu'on appelle aussi les plantes invasives. Alors, qui sont-elles? Que sont-elles? Est-ce qu'on peut un peu réfléchir là-dessus? Bon, c'est une introduction peut-être à une réflexion que je vous propose aujourd'hui. Tout ça ne sera pas exhaustif, bien entendu. Alors, que sont les plantes envahissantes? Ben, c'est généralement des plantes introduites par l'homme sur des territoires où elles ne sont pas naturellement. Alors, l'introduction, elle peut être volontaire. Ça peut être des plantes ornementales, la glycine, les glaïeuls, le mimosa, les boudélias, ou le châtaignier, le douglas. Douglas, l'envahissement du Morvan par le douglas, mais ça peut aussi être la pomme de terre, la tomate, la courgette. Alors, souvenons-nous quand même que dans nos catalogues de jardiniers, il y a une énorme partie qui sont des plantes qui ne sont pas originaires d'Europe, qui ont été ramenées des quatre coins du monde. Donc elles peuvent être introduites volontairement, toutes ces plantes, ou accidentellement. Par exemple, dans les semences importées, dans des articles qui contiennent des graines, ou bien via des animaux exotiques, dans leur plumage, etc. etc. Disons aussi que le changement climatique, généré par les hommes, offre des opportunités à des plantes formidable, parce que d'un seul coup, voilà de nouveaux territoires où elles n'auront pas encore de prédateurs naturels et où elles vont pouvoir se développer bien tranquillement. On dit qu'il y a plus ou moins 700 espèces introduites qui sont naturalisées sur notre territoire, en Europe. Bon, elles n'ont pas toutes les mêmes effets sur le milieu. Hein. Une espèce ne deviendra envahissante que par le nombre et le degré d'utilité pour l'homme. C'est surtout ça qui est important. Si ça sert aux hommes, oh, c'est pas forcément envahissant. Si ça sert à rien, oulolololo, c'est abominable. Hein. Par exemple, le topinambour et la renouée du Japon. Topinambour, ça se mange? Bon, d'accord. Il y en a qui ont des mauvais souvenirs de topinambour, et c'est pas très énergétique. Mais bon, ça se mange. La renouée du Japon, ça se mange pas. Le topinambour et la renouée se multiplient à peu près aussi facilement. Si vous abandonnez un tubercule de topinambour dans un coin, si vous le laissez pousser une année ou deux, ben vous allez avoir un tapis de topinambour. Donc, c'est quand même un critère d'utilité qui définit la plante envahissante. Hein. On parlera aussi d'envahissement si l'espèce se reproduit vite, prend la place des autres, et puis s'installe à demeure dans un biotope. Si on y va par là, l'espèce envahissante de base, exemplaire, c'est pas le végétal, c'est l'homme. Et d'ailleurs, c'est aussi l'homme qui invente l'espèce invasive, envahissante, parce que c'est lui qui la ramène. Toute seule, la renouée du Japon, elle serait pas arrivée en Europe comme ça. Hein, il aurait fallu qu'elle traverse le bras de mer, la moitié de l'Asie, excelle de l'Himalaya, redescende, se tape le Caucase, fasse le tour de la mer Noire, machin, pour arriver enfin chez nous. Pendant tout ce long voyage, elle aurait eu mille une occasion d'être broutée, d'avoir gelé, d'avoir perdu ses semences, puis de modifier tout à fait doucement son code génétique, sa nature, s'adapter une fois à la montagne, une fois à la plaine, et petit à petit, ça deviendrait une espèce naturelle, européenne, elle a renouée Japonica, Europeica. Donc si les espèces envahissantes s'installent, c'est que nous leur laissons la place par notre rapport au milieu. On les fait venir, on leur donne une place parce que notre rapport au milieu est un rapport quand même extrêmement destructif. On n'est pas tendre avec ce qui nous entoure. Hein, on a une petite forêt, on coupe tout, on met les douglas, youpi. Et depuis le néolithique, la généralisation de la sédentarité et de l'agriculture, le territoire en a pris un sacré coup et les paysages ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Donc c'est l'homme a un tel impact sur son milieu que quand il amène une invasive, il l'amène dans un endroit où elle peut tout à fait s'adapter. Et en plus, l'introduction d'espèces est continue. Tout le temps on fait ça. On râle un coup sur la Jussie. Oh, la Jussie, elle envahit tous les cours, tous les plans d'eau, c'est une horreur. Mais pendant ce temps-là, on continue à importer à tour de bras des masses de plantes. Il y aura sûrement une qui deviendra invasive. Hein ? Alors, il y en aura un paquet qui ne seront pas invasives, parce que elles sont pas adaptées. Mais il y en aura peut-être une ou deux qui fichera le camp, qui ira se trouver son biotope sympathique. Et puis voilà, on aura une espèce invasive. D'autre part, nous autres jardiniers, nous sommes quand même extrêmement friands de tout un tas de trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Vous regardez les catalogues de semenciers, pas les catalogues un peu classiques, hein. Quoique, hein, si vous regardez le catalogue de semenciers bio, vous avez des dizaines de pages de tomates. La tomate, ça n'a rien du tout d'une plante européenne. Pareil pour les patates. Mais en revanche, si vous regardez alors les catalogues un peu yéyé, genre coco qui germe pas, alors là vous avez des bottins entiers de trucs qui viennent des quatre coins du monde. Évidemment, la courge verte à pois bleus d'Australie, elle sera bien meilleure et beaucoup plus formidable que le potiron sucré du pépé d'à côté. Évidemment, le pépé d'à côté complètement ringard, tandis que le truc qui vient des contreforts de l'Himalaya, de l'Inde, du machin ou du truc, ça a fait. Ça va exalter tout le monde. Hein. On va cultiver la baie de goji à tire-larigot et puis un peu oublier la groseille à macro. Bon, je vous rassure, je suis un jardinier. Donc, par exemple, chez moi, j'ai mis des patates douces. Voilà. Le jour où le climat aura suffisamment changé, c'est-à-dire où il n'y aura plus de gel, la patate douce, où il fera quand même beaucoup moins froid en hiver, la patate douce, elle restera. Elle ne crèvera pas dans la terre. Et du coup, ça sera une véritable envahissante. Parce que la patate douce, c'est un genre de liseron. Hein, c'est de la même famille qu'on veut vu lasser. Et donc, ça va partir dans tous les sens. Il y en aura partout. Ah là là, la patate douce, elle est envahissante. Oui, il y a des jardiniers qui l'ont mis. Hein. Donc, tous les jardiniers ont cette espèce de fantasme de la plante qui vient d'ailleurs et qui fait que mon jardin est remarquable parce que j'ai des yacons. Regardez mes yacons, ils sont vachement beaux, ils sont énormes et ils produisent chacun 54 kilos de tubercules. Oui. Voilà, le jardinier aime bien quand il y a 54 kilos de tubercules, il n'aime pas avoir juste les 2 kilos qui lui suffisent pour sa popote. Non, il faut qu'il y en ait plus et que ça soit aussi énorme. Bien sûr, le concours du plus gros légume. Mais je vous dis ça parce que ce genre de pensée participe aussi de l'installation, de l'accueil ou de la haine qu'on porte aux plantes envahissantes. Donc, tous ces jardiniers, ils sont aussi responsables de l'arrivée de toutes ces plantes qui, un jour peut-être, seront envahissantes. À la faveur d'un réchauffement qu'on voit tout le temps. Hein.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Yeah. velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou: ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas.
Bon, bien sûr, les plantes envahissantes, elles ont aussi leur intérêt. Hein, j'ai cité le topinambour, la patate douce. Un jour où la patate douce viendra partout, ben, les gens ils ramasseront les patates douces. Voilà, bon, ça sera déjà ça. Je le redis, la plupart de nos plantes des jardins sont exogènes. Mais il faut quand même noter la façon dont l'envahissement se produit, généralement. Alors, au départ, il y a un grand coup. Hein, au début, plaf, il y en a partout. Une fois qu'elle s'est acclimatée, qu'elle a trouvé son biotope, hop, c'est comme la renouée du Japon, bah, pff, y en a partout, c'est énorme, dans tous les talus, au bord des voies de chemin de fer, c'est, on sait plus quoi en faire, et ça coûte beaucoup de sous, parce qu'il faut l'enlever, bon, voilà. Mais, avec le temps, il y a un équilibre qui va se trouver. Mais oui, parce que le vivant, il est plastique, il est élastique, il rebondit, il s'adapte, il se colle dans tous les petits coins. La planète, c'est un tout. Un tout, c'est pas des compartiments. Donc, elle va venir, elle va envahir tout, et puis elle va finir par s'adapter doucement. Alors, peut-être ça prendra 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais au bout d'un moment, il y aura bien sûr des stations où il n'y aura que ça. Il n'y aura que de la jussie sur une dizaine d'hectares dans une vallée. On dira, bah, la vallée était mieux avant, mais bon, maintenant elle est comme ça. Mais ailleurs, ça s'équilibrera plus ou moins. Bah, ça n'empêche pas que les dégâts peuvent être considérables le temps que la plante s'adapte. Prenons par exemple l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui est un exemple merveilleux pour ce qui est de l'introduction d'espèces et de la destruction. La Nouvelle-Zélande, c'est un endroit extrêmement fragile. Il n'y a rien de plus fragile que ces deux, trois grandes îles. Se sont détachées au cours des temps géologiques et elles ont gardé une faune et une flore endémique extrêmement particulières. Mais chaque fois que les hommes ont débarqué en Nouvelle-Zélande, que ce soit les Maoris, que ce soit les Anglais, il en est résulté une catastrophe, entre guillemets, écologique, bon, disons, une catastrophe végétale et animale. Les rats amenés par les Maoris ont dévoré tous les perroquets aptères, les perroquets qui n'avaient pas d'ailes, qui vivaient par terre parce qu'ils n'avaient pas d'ennemis par terre, etc., etc. Et par exemple, bah, l'exemple du boudélia, le fameux arbre à papillons, hein, qui pousse dans tous nos terrains vagues, quand il est arrivé en Nouvelle-Zélande, ça a envahi tout et ça a été une catastrophe parce que on avait beau les éradiquer, les couper, mais bah, ils empêchaient la germination de la forêt qu'il y avait avant. Donc c'était une catastrophe. Les moutons, ça a été pareil. Une aberration d'amener des moutons dans un pays où il n'y a pas de moutons. Il y a des prairies, mais les moutons, ils vont tout dézinguer. Donc voilà. Un autre exemple qui peut être amusant, mais qui me semble quand même assez sinistre, parce qu'il est au confluent de beaucoup de pratiques, c'est l'Artémise. Alors l'Artémise, c'est un genre d'ambroisie. Qui se ressème comme en un clin d'œil, hein, il suffit de la regarder de travers et hop, elle se ressème, elle gagne très très vite. Donc l'ambroisie, on la connaît en France, elle est aussi envahissante, hein, et en plus d'être envahissante, elle est extrêmement allergène. Elle est vraiment pas sympa. Donc l'artémise, formidable, l'artémise, il y a l'artémisine dedans, et l'artémisine, ça peut guérir le palu. Bon, pourquoi pas. Alors on va en planter partout. Donc voilà nos petits gars qui partent en Afrique avec leur petit sac d'artémisine et puis qui vont dire aux populations, bah tenez, on va vous guérir avec l'artémise, vous allez voir, dans 10 ans il n'y a plus de palus, c'est fini, vous n'aurez plus de crise, c'est formidable. Donc qu'on va planter de l'artémis partout. Ça guérira pas le palu, rassurez-vous. La quinine ne l'a pas fait, la nivaïkine ne l'a pas fait, la chloroquine ne l'a pas fait. L'artémisine ne le fera pas non plus, parce que finalement, le palu, au début, il va être un peu fatigué, puis finalement, il va manger, comme il a mangé de la chloroquine et tout le reste, il va manger de l'artémisine, parce que c'est bon, ça a du goût et ça donne du goût aux globules rouges. Donc, ça changera pas ça changera rien, d'autant que les pays d'Afrique sont notoirement pauvres, notoirement mal équipés en industrie pharmaceutique, donc ils vont pas pouvoir faire un médicament avec la plante. Donc on va se promener avec des petits sachets d'infusion. L'infusion, ça guérira encore moins rien du tout. Ça ira encore plus vite pour que l'ophtalmodium s'habitue, mais l'infusion, par définition, ça calmera les crises. On dirait que c'est déjà ça. Calmer les crises, que ça dure moins longtemps, quand même formidable. Mais bon, cette artémise, donc qu'on va planter pour en faire un truc qui sert à rien, elle va en profiter aussi pour se développer. Donc bientôt, on va en avoir partout en Afrique. Et ça va devenir, comme est devenu d'ailleurs la jacinthe d'eau dans les plans d'eau africains, c'était une catastrophe. Ça a eutrophisé des plans d'eau entiers et ça détruit tout, toute vie. Donc voilà, ouais, vous voyez, c'est quand même extrêmement, extrêmement compliqué. Et je crois que une conclusion que nous pourrions tirer, c'est qu'en fait, il faut être attentif aux vivants. Mais il ne faut pas déployer ni de haine, ni quoi que ce soit vis-à-vis d'espèces envahissantes. Elles sont là, elles sont là, on les a amenées, donc elles prolifèrent. Hein. Petit à petit, elles prendront leur place et si ça se trouve, petit à petit, un beau matin, on leur trouvera des bienfaits. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est pas très rigolo parce qu'on voit nos paysages se modifier. Et qu'en plus, se modifier à cause de qui ? À cause d'un étranger sauvage. Voilà deux caractéristiques qui sont insupportables. Les étrangers, les immigrés, déjà quand ils sont humains, n'en parlons pas, mais alors quand ils sont plantes, au secours, et sauvages, pas domestiqués, c'est pas le maïs. Le maïs est une plante envahissante, vous survolez la France, il y a du maïs partout, mais bon, on arrive à peu près à le maintenir. Les agriculteurs plantent leur maïs, hop, tout va bien. Le colza, c'est pareil. Tandis que là, elles sont sauvages, elles demandent rien à personne, elles font leur truc dans leur coin. Donc voilà. Je pense qu'il y a quand même une certaine bienveillance et une réflexion de toute façon à avoir sur toutes ces plantes envahissantes. Écoutez, j'espère que ce petit discours que je vous propose vous aura fait réagir et réfléchir. Et j'attends avec impatience vos réactions pour pouvoir continuer cette réflexion qui n'a fait qu'être effleurée. Aujourd'hui, je n'ai pas été très loin. Bon, ça n'a pas cassé trois pattes à un canard, heureusement pour le canard, parce que des canards à trois pattes, il n'y en a pas tant que ça, et quand on en a un, faut y faire attention. Je compte sur vous pour donner suite à ce petit débat, et je vous souhaite une bonne fin de journée, à l'écoute de Radio Bricole.
Tonton le tigre aimé, Conchita la danseuse. Tonton le tigre aimé, Conchita malheureuse. Tonton le tigre aimé, Conchita amoureuse. Du beau dompteur Zorro à la langue menteuse. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Le beau Zorro disait, Conchita que t'es bête. Le beau Zorro disait, l'amour n'est qu'une fête, ne durant qu'une nuit qu'à l'aurore on arrête. Le beau Zorro disait, vraiment tu perds la tête. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Le tigre entendait tout et songeait in petto. Attends chacun son tour, attends mon beau Zorro. Attends le dernier numéro. Quand tu bronzes la tête dans la gueule à Toto. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. sur la piste Zorro, le cœur toujours en quête, pendant qu'il travaillait d'une nouvelle conquête, se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête, qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. On les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre faux dompteur à tête savoureuse. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Oh les Conchita.